d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, 106.3, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des militants d'Attaque.
Et nous recevrons aujourd'hui l'association RAP Résistance Antipub. Mais avant de parler d'Antipub, nous allons parler, comme d'habitude, d'actualité avec Jean-Marc, qui commence par nous parler des Jeux Olympiques.
Alors, les Jeux Olympiques, c'est un sujet qui nous passionne. Vous savez que nous sommes des gauchistes très sportifs, donc les Jeux Olympiques, c'est notre truc. Alors, des Jeux Olympiques, il va y en avoir cette année en Russie, à Sochi, près de la mer Noire, avec le délicat Poutine qui est aux manettes pour organiser cette grande réunion, ce grand show international. C'est pas ça le problème, c'est toujours pareil, les JO, c'est toujours une grande messe, une grande publicité politique. Ce qui est un peu bizarre, c'est de voir le changement en une trentaine d'années. En 1980, il y avait déjà eu des JO en Russie, à l'époque ça s'appelait l'Union soviétique. L'Union soviétique venait de rentrer en Afghanistan à la demande des communistes afghans, il en existait à l'époque, et ça avait fait un scandale, il y avait eu toute une campagne internationale, lancée bien sûr par les Américains, reprise par la plupart des pays occidentaux, appelant au boycott des JO de Moscou. Boycott qui avait marché relativement bien ou relativement mal, c'est toujours la même théorie du verre plein et du verre vide. 34 ans plus tard, on remet le couvert en Russie, mais cette fois, c'est la Russie de Poutine, une Russie bien démocratique, dans laquelle il n'y a plus de camp de travail, dans laquelle la liberté d'expression est garantie, dans laquelle les manifestants ne se font plus matraquer la gueule, tout va très bien, et donc tout le monde peut y aller, on ne parle plus de boycott, tout le monde est content, et on va continuer à éclater du caucasien, ça tombe bien, on est dans le Caucase avec les JO de Sochi. Alors, pour rester toujours en Russie, la Russie vient de faire une perte dramatique. Monsieur Kalachnikov, oui, c'est un monsieur, eh bien, est mort. Il est mort à plus de 90 ans. Et c'est quand même très triste qu'un monsieur qui a inventé l'une des armes les plus efficaces du XXe siècle soit mort bêtement dans son lit de mort naturelle. C'est presque un péché dans ce secteur d'activité.
Ça lui fera pas une très bonne publicité, ça. Il faut quand même pouvoir livrer tous les petits cadeaux aux militaires ou les cadeaux de Noël des militaires. Quoi, une belle Kalachnikov pour Noël, non?
Ouais, alors justement, les cadeaux, c'est très à la mode. On vient de quitter la sphère de Noël et toutes les publicités de Noël et du Nouvel An, on va en reparler. Et c'est un marronnier dans la presse actuellement et depuis quelques années. Il faut revendre ces cadeaux de Noël sur Internet. Alors, avant même les fêtes, on nous parle des gens qui sont affreux et qui vont revendre le service en simili vermeil de la grand-mère sur Internet dès le lendemain ou même avant de l'avoir reçu. C'est trop affreux. C'est trop affreux. Et pourtant, on pourrait en faire quelque chose. Reprendre cette idée qui est assez moche, quoi, revendre le cadeau de grand-mère quand il est trop moche, c'est pas sympa. Par contre, on pourrait revendre ce qui ne nous plaît pas. Par exemple, revendre les hommes politiques qui ne tiennent pas leurs paroles. On pourrait les mettre en vente sur Internet. Ce serait pas bête. On utilise en fait des techniques du commerce, mais adaptées à la vie politique et militante. Donc on a des tas d'hommes politiques qui font des campagnes, qui nous promettent des choses, ils les tiennent pas, ben on les revend. On les remet aux enchères. Ce serait pas mal, je pense qu'on pourrait faire un eBay politique.
Enfin, je vois pas trop qui voudrait les acheter. Enfin, ils sont déjà vendus.
Oh bah, le service en vermeil de la grand-mère, il y a toujours un con pour l'acheter. Alors peut-être qu'on pourrait revendre Balkany. On sait jamais.
Ouais, Balkany, c'est un peu trop cher pour moi, je crois. On va continuer avec l'actualité, puis une actualité qu'on nous rabat les oreilles. On va parler d'un grand humoriste.
Alors oui, on va parler d'humour, on est forcé, c'est l'actualité qui nous y oblige. Il faut parler d'un grand humoriste qui a souvent été persécuté, il faut bien le dire, par les médias, par les bien-pensants nombreux de la pensée unique, cette pensée unique qui nous castre complètement. C'est dégoûtant. Je suis triste de devoir le dire, de devoir le répéter. Guy Bedos prend déjà sa retraite. Et ça devrait être interdit parce que des vrais humoristes, il n'y en a plus tellement.
C'est vraiment triste, oui. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui auraient cru qu'on allait parler d'un autre soi-disant comique, on a évité, on va pas en parler, ça nous dégage les oreilles. On va juste mettre un petit message qui est donné par la compagnie Le Joli Môme. Ne te trompe pas de colère.
« Ça fait 20 ans qu'on nous explique. La lutte de classe s'est dépassée. Qu'au nom de la guerre économique, pauvres et riches doivent collaborer. Oui, mais
c'est pas les bons gardiens. Allez dans les
appels. T'as voté pour lui ?
Ne trompe pas,
je suis troisième.
Maintenant, moi, je suis lycéenne. Je peux rejoindre les révolutionnaires.
Travailleurs ?
Ouais, c'est prolétaire.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires.
Encore un peu d'actualité avec Jean-Marc qui va nous parler de l'actualité du chômage.
Alors justement, le chômage c'est aussi quelque chose de périodique, il n'y a pas que Julie Gayet et François Hollande dans l'actualité, il y a aussi des choses un peu plus importantes dont hélas on ne parle pas. Et pendant qu'on s'occupe de Closer, on ne parle pas des négociations de l'UNEDIC qui ont lieu tous les 3 ans et justement ça revient sur la table en 2014. Les partenaires sociaux vont avoir 2 mois pour renégocier les droits à l'assurance chômage. Or, dans le contexte économique actuelle, dans le contexte de démission politique du pouvoir social libéral, cela n'augure rien de bon, mais vraiment rien de bon. Déjà, la dernière mouture, celle qui date de 2011, était croquignolette. Après, donc, arrivé à l'échéance et au bout de ces 3 ans d'existence, la dernière négociation a donné un résultat magnifique, puisque c'est seulement 40% des chômeurs réels qui étaient véritablement indemnisés. Donc, moins d'un chômeur sur deux indemnisé, c'était déjà un bel accord, et on peut penser que celui qui s'ouvre va être pire. Alors, en attendant que justement les partenaires sociaux avec le MEDEF de choc représenté par un fils Gattaz plus excité que jamais, qui est sans doute l'un des pires chefs du MEDEF qu'on ait connu depuis longtemps, et pourtant on avait vu des charognes en série se succéder à la tête de l'organisation patronale, avec un pouvoir socialiste qui est démissionnaire et plus démissionnaire que jamais, ça promet. Si les partenaires sociaux n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les 2 mois, eh bien l'avenir n'est pas forcément beaucoup plus rose. Puisque dans ce cas-là, c'est l'État qui va prendre ses responsabilités, comme disent si bien les journalistes des médias dominants, et les responsabilités d'un pouvoir social-libéral qui, à force de pâlir, est passé du rose pâle au rose très très pâle, voire au blanc délavé, eh bien, ça n'augure rien de bon pour les chômeurs. En attendant, la précarité galope, les minima sociaux se développent, la pauvreté augmente, mais soyons tranquilles, la morale est sauve, les profits des actionnaires poursuivent leur ascension. Alors, assez, agir contre le chômage, appel à un rassemblement le vendredi 17 janvier à 14h face au MEDEF. Rassurez-vous, le MEDEF, c'est bien au cœur de Paris, c'est 55 avenue Bosquet dans le 7e arrondissement, ce n'est pas à Saint-Denis.
Ce n'est pas à Saint-Denis. Eux, ils sont en bonne place, le MEDEF. Et dans le MEDEF, on rappelle souvent qu'une entreprise qui a tenu le MEDEF, c'est l'entreprise des publicitaires. Il faut bien rappeler que les gens de pub sont des gens riches. Ils ne vont pas toucher fréquemment leur assurance chômage, ceux-là. Alors la publicité, justement, la critique de la publicité, c'est le thème de notre émission. Et nous recevons l'association Résistance Anti-Pub, RAP, avec nous, François Brune et Khaled Gaïdji. Et nous allons commencer par parler avec François, justement, de cette publicité qui nous envahit. On va peut-être commencer par une question horrible, mais finalement, la publicité, pourquoi être contre ? C'est utile, la pub, non ?
Oui, bien sûr, ça informe, notamment. Et quand vous constatez le nombre d'informations qu'on donne sur un produit, en général, vous êtes stupéfié par le nombre de réponses. Qui l'a fait, comment, dans quelles conditions, etc. Bon, bref, on s'aperçoit que sur le produit, il n'y a presque rien, sauf ce qui pourrait éventuellement aller chez le client. En revanche, vous apercevez que dans les médias, la place, l'immensité de place prise par les publicités, et stupéfiante par rapport à la minceur des informations. Voilà. Alors donc, on peut se poser la question, s'il y a si peu d'informations et tant de place, pourquoi ? Pas simplement parce que la publicité n'est pas faite pour informer, mais pour vendre. Mais attention, vendre comment ? La publicité est faite pour produire en face d'elle quelqu'un qui aurait besoin des marchandises. Et donc, il va falloir transformer le citoyen en consommateur, en se saisissant, non pas en lui créant de nouveaux besoins, mais en se saisissant de ses besoins tels qu'ils sont, et pour lui faire croire que des marchandises vont pouvoir les satisfaire. Or, la plupart des besoins ou des désirs de l'être humain échappent simplement à la dimension matérielle des produits. Bon, les gens ont besoin de manger pour vivre, mais pas de vivre pour manger. Il y a un tas d'autres dimensions. Et tout le problème, naturellement, de la publicité, et même parfois à l'insu des publicitaires, c'est de formater un individu nouveau l'homocosumance, qui croira trouver dans la consommation, dans la marchandise, toutes les réalisations possibles de ses désirs. Et si vous regardez un petit peu comment ça se situe, enfin, moi, que vous ayez des questions plus précises, vous apercevez que la publicité va travailler l'individu qui est en face d'elle, femme, enfant, ménagère de plus de 50 ans, homme, enfin n'importe qui, tout le monde, et travailler à un certain nombre de niveaux qu'on peut structurer très rapidement en disons, le niveau de l'achat et de la consommation, le niveau du bonheur, le modèle de bonheur, et puis il y a encore un certain nombre.
Alors, justement, on va essayer de les voir un peu en détail, ces achats, parce qu'on là, on est tous souvent très passifs face à la publicité, et pourtant, face à nous, les publicitaires ne sont pas passifs, et ils savent comment influer sur nous.
Mais en même temps, il y a quand même un problème, c'est que tu dis qu'il n'y a pas d'informations dans la pub, mais le problème, c'est que dans la pub, il y a plus d'informations que dans les journaux, souvent.
Oui, enfin, ça dépend, parce que ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Ça dépend de quels journaux et ça dépend effectivement de quel type d'information. Mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est de voir que le premier acte, finalement, du publicitaire, c'est de vouloir faire acheter. Mais l'achat n'est pas quelque chose d'innocent. Vous avez percevé que si on vous dit d'acheter, vous dites « mais moi, je n'achète que ce dont j'ai besoin », sans savoir d'où vient ce besoin. Et petit à petit, vous apercevez que l'enfant naît dans un monde où on lui dit toujours qu'il faut acheter. Il y a des vitrines qui sont là, et finalement, il y a une sorte de répétitivité, et notamment tout au cours de l'année, il y a des moments où il faut acheter, et de plus en plus, et quand on n'achète pas pour soi, il faut faire acheter pour offrir, et vous avez une sorte de pulsion d'achat qui se crée, c'est-à-dire que l'individu moyen, il se sent en état de déséquilibre quotidien s'il n'a pas fait le crack qui lui permet d'acheter, de satisfaire un besoin, une attente, etc. Et c'est tellement quelque chose qui est tellement, oppressant qu'il arrive des moments où on sent le désir, enfin non pas le désir, la nécessité d'acheter alors qu'on n'a aucun désir. Et alors c'est pour ça que vous voyez des slogans comme « ERAP augmente votre vouloir d'achat » ou bien « Je n'ai d'envie que si l'on m'en donne ». On voit bien qu'il y a une sorte de panne de l'envie et de saturation du devoir d'acheter. Et ça pose quand même un problème parce que tout le monde vit là-dessus. Et toute la société, les foires, les fêtes, tout est axé, la temporalité de la cité est axée là-dessus. Et puis alors, lorsque vous apercevez effectivement que vous, personnellement, individu, vous n'êtes pas sensible finalement aux publicités et aux désirs d'achat, il se trouve qu'on vous fait croire que les autres, eux, sont devenus des autres normaux, des gens qui vivent heureux parce qu'ils ont acheté. Et donc le deuxième stade de la publicité, c'est de développer au maximum le mimétisme social. Et beaucoup de publicités, quand on les regarde de très près, partent du principe, mais déjà tous les gens un petit peu à la mode, qui vivent dans leur époque, ont acheté ce produit. Et donc, par simple désir d'imitation, non pas pour s'identifier et devenir plus, mais pour ne pas être moins. Et tous les sondages, par exemple, jouent sur cette espèce de complexe « je ne suis pas majoritaire ». Donc il faut vite que je rejoigne la majorité. Or, la majorité consomme. Elle consomme tel type de produit, elle consomme tel type de produit à la mode, etc. Elle va avoir tel film. Comment ? Vous n'avez pas vu le Titanic ? Ben non, je ne l'ai pas vu. Oh merde, de quoi j'ai l'air, vous voyez ? Et donc il y a cette espèce de pulsion à la fois d'achat et de consommation qui est créée et qui donne le sentiment à la personne qu'elle est anormale. C'est ça la normalisation. Elle est anormale si elle ne cède pas, si elle n'entretient pas cette pulsion consommatrice.
J'ai pas vu le Titanic, c'est dans les mémoires d'un iceberg, ça.
Bah oui, bien sûr. Mais c'est absolument extraordinaire de voir la façon dont les gens sont formatés. Alors, une fois, bien entendu, qu'on a fait remarquer ça, des gens vous disent, mais les gens sont tout à fait libres. D'ailleurs, ce qu'ils cherchent, c'est leur bonheur. Alors, on me dit, tiens, quel modèle de bonheur vous donne la publicité? Alors, vous regardez la publicité, et vous apercevez tout de suite qu'il y a un certain nombre de trucs qui reviennent toujours. Vous avez la liaison entre la pulsion sexuelle et la pulsion d'achat, alors là, ça marche bien, très bien. Les objets deviennent tous des objets sexuels et les partenaires deviennent par la même occasion des marchandises. Vous voyez, ça c'est vrai. Bon. Vous avez ensuite la célébration du nouveau. Alors, tout ce qui est nouveau est forcément positif. Et naturellement, ce qui veut dire que tout ce qui est vieux est à jeter. Et oui, parce que ça marche. Donc, c'est l'apologie du changement pour le changement. Et vous avez même effectivement.
Ouais, mais avec le problème des retraites, c'est pas con. Hein, comme
mais oui, il faut changer. Il faut changer. Il faut tellement changer que lorsque la durabilité devient quelque chose dont on parle, vous avez des slogans du genre une relation durable, ça change la vie. Voilà. Bon, vous avez un troisième élément qui revient tout le temps. Alors, c'est le consensus terroriste. Vous êtes tous ceci ou là. Vous consommez tous. tel produit révèle votre désir de cela. Vous voyez, donc on vous fait croire que si vous ne faites pas comme les autres, vous êtes des mauvais citoyens, vous vous mettez à part. Puis vous avez encore quelque chose qui revient toujours, c'est le devoir de plaisir. Il faut vous faire plaisir. Il faut avoir l'air heureux. Sinon, vous avez l'air chiant aux yeux des autres. Vous voyez, bon. Et donc, c'est terrible. Parce que si vous ne jouissez pas comme tout le monde, on croit que vous êtes malheureux. Et puis, vous avez encore une pulsion qui revient toujours. C'est le fantasme du pouvoir. Vous appuyez sur un bouton et vous devenez Dieu. Vous êtes sur votre 4x4 et vous dominez le monde. C'est la publicité du 4x4. Dominez le monde. Et quand on vous donne comme impératif de dominer le monde, il faudrait savoir qui domine qui. Bon, c'est un autre problème. Alors, tout ça, ça revient tout le temps. Ça revient, c'est une sorte d'idéologie, c'est ça l'idéologie. C'est une manière de voir le monde qui est marquée de façon très bonne.
Et si
le dernier élément qui revient tout le temps, si vous le voulez bien, on va peut-être écouter la musique, non ?
Non.
C'est la célébration du produit comme héros de l'existence. Il résout tous vos problèmes. C'est-à-dire qu'il va résoudre naturellement vos problèmes matériels. Lavabo bouché, bon, vous prenez ça. Panne d'érection, vous prenez ceci. Enfin bref, vous avez tous les problèmes matériels. Mais vous avez aussi la résolution par le produit de toutes les dimensions qui ne sont pas d'ordre marchandise, justement. Par exemple, l'intelligence, c'est, je sais pas moi, Gloria, le concentré d'idées. La révolution, c'est révolutionner vos placements. La liberté, c'est... une idée qui est en l'air, ça c'est pour le portable. La liberté, une idée qui est en l'air. Bon. Et vous en avez un certain nombre comme ça, je pourrais en citer plein. Le moi, mon identité, ma crème, c'est tout moi. Donc votre identité vous est donnée par vos vêtements, par vos chaussures, etc. Alors là, ça devient terrible. Vous ne cherchez plus non plus à être un être en tant que tel, dans toute sa singularité. Vous croyez que c'est en adhérant à un certain nombre de conduites, en achetant un certain nombre de produits, que vous avez constitué votre identité. Et là, on en arrive justement à ce que Marcuse appelle l'homme unidimensionnel, c'est-à-dire celui chez qui toutes les dimensions de la vie ont été réduites, insérées dans la seule dimension de la consommation, et qui devrait se croire heureux comme ça. Manque de chance. Aucun produit ne tient les promesses de toutes les valeurs qui ont été insérées de lui. Et donc, plus vous assistez dans le sens « la marchandise va faire votre bonheur », plus vous créez des gens qui vont être frustrés. Et alors, la réponse naturelle de la personne, c'est de dire « oh, ben finalement, si je suis pas tellement heureux, c'est que c'est pas l'homo en question qu'il me fallait, c'est le nouvel homo. » Donc, ils vont croire que c'est pas le produit qui est en question, c'est le fait que c'est pas un produit qui n'est pas encore complètement au point.
C'est une chronique sur le mariage pour tous, c'est ça?
Voilà. Oui. Et donc, oui, là. Et alors.
Alors, un autre terme, c'est le titre d'un ouvrage que vous avez encore en parution en ce moment, qui est le bonheur conforme.
Oui, le bonheur conforme.
C'est bien l'expression, se conforme à son bonheur qu'on nous fournit.
Voilà. Le bonheur QU apostrophe aussi conforme, effectivement. Mm-hmm. Il y a le jeu de mots. Et d'ailleurs, j'aurais dû l'après peut-être. Bon, enfin, bon, le bonheur, le malheur conforme. Parce qu'en fait, ce bonheur mène directement dans le malheur. Ça produit des gens qui sont frustrés. Alors, ceux qui ne peuvent pas acquérir les produits, bien sûr, mais ceux qui ont acquis les produits s'aperçoivent que ça n'apporte pas ce qu'ils espéraient. Et quand on est frustré, ça produit de la violence. Et la violence qui pèse sur le consommateur, parce qu'il est agressé en permanence, il est pris dans les tenailles de la publicité en permanence, cette violence, elle se transforme parfois en violence qu'il va faire sur les autres.
C'est-à-dire pour ça que le conducteur de 4x4 fait chier dans la circulation et écrase les gens.
Oui, mais bon, et puis vous avez parce qu'en fait, le problème de la violence, vous avez par exemple des gens qui croient que par le produit, ils vont devenir supérieurs aux autres et arrogants. Et donc la violence de la frustration va se transformer en violence d'arrogance par rapport aux autres.
Alors, ce que vous résumez ça par une jolie formule, c'est que ce ne sont pas des consommateurs, mais des gens qui sont pas la consommation, pardon, c'est de la consoumission.
La consoumission, exactement, effectivement, parce que dans tout cela, même dans le relèvement à la liberté d'acheter, le consommateur n'est pas libre, il est soumis.
Et il est de plus en plus soumis dans nos années 2000, alors que c'était un sujet, un débat classique des années 70, où on remettait en cause la société de consommation. Aujourd'hui, il n'y a plus de remise en cause. Alors, on va justement écouter pour ceux qui ne le connaissent pas, Jacques de Broncaert, qui, en 1969-1970, nous expliquait qu'il était heureux.
La couleur. tous les jours de la valeur et l'espoir de gravir l'échelon supérieur. Suis heureux, suis heureux, suis heureux, suis heureux.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des militants d'Attaque.
Et nous sommes accompagnés par l'association RAP Résistance Antipub, avec entre autres François Brune et Raled Gaïdji qui nous ont rejoints, et on est en train de discuter avec François Brune de l'idéologie dominante qui nous envahit les oreilles par la publicité.
Oui, et vous avez bien dit Résistance Antipub, mais la dénomination exacte c'est Résistance à l'agression publicitaire. Parce que ce qu'on a essayé de dire quand on a créé cette association, parce que j'en étais, c'est que on n'est pas là dans une offensive, si vous voulez, agressive, délibérée. On est simplement en état de résistance par rapport à quelque chose qui nous environne de partout. Bon, je vous ai montré comment le modèle de bonheur nous tombait dessus. On a vu avec Jacques de Broncard cette espèce de résistance et de frustration, si vous voulez, par rapport à ce faux modèle, cette oppression d'un bonheur conforme, si vous voulez. Et puis, il y a aussi quelque chose qui va beaucoup plus loin, c'est qu'il y a un travail sur la pensée même, sur la manière de penser. Vous avez par exemple des slogans, on peut citer des slogans, mais qui font rire, quand vous avez « Soyez différents », Pensez Pepsi, vous dites, tiens, c'est bizarre. Et quand vous regardez l'emploi du mot esprit ou l'emploi du mot pensée dans les publicités, vous êtes complètement ainsi, parce qu'effectivement, la pensée, c'est penser à acheter. L'esprit, c'est l'esprit ou d'entreprise, ou au contraire, l'esprit frais, l'esprit d'aujourd'hui, fleurimichon. Vous voyez, c'est ça l'esprit. Et puis alors, vous apercevez qu'il n'y a pas que les publicités qui font ça, ou plus exactement, la pensée dominante de la publicité, l'idéologie dominante de la publicité, elle a contaminé tous les autres domaines. Les politiques, naturellement, s'agenouillent devant la publicité. Les communicateurs humanitaires s'agenouillent devant la publicité. Lorsqu'on a fait le passage à l'euro, il y a eu un slogan absolument épouvantable qui était celui-ci. Je suis en Europe, donc je pense en euros. Oui, et ça, c'est permanent. Et si vous regardez ensuite la rhétorique publicitaire, elle n'arrive pas, elle passe son temps, si vous voulez, à développer des associations parfaitement artificielles entre des produits et des thèmes, des valeurs, etc. Elle passe son temps à mettre tout ça en rythme. Parce que quand on est en rythme, on ne peut plus avoir de distance critique par rapport à ce qu'on reçoit. Et on peut parler d'ailleurs de la rythmique dominante que la publicité et les médias dans leur ensemble, parce que ça s'est contaminé, ont devant nous. On ne peut plus se sortir, vous voyez. Bon. Alors il y a aussi, bien entendu, dans les publicités, une sorte de visualisation permanente à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Et puis quand toutes les ressources de la raison, si j'ose dire, sont complètement effacées, eh bien la publicité vous lance, mais la convivialité déraisonnable. Allez, on craque, allez, on s'éclate, allez, on réfléchit plus, voilà. On est heureux dans l'absence de contrôle et de conscience de soi-même. Et en fait, c'est vers cela que ça conduit, vous voyez. Bon. Alors, le problème qui se pose avec cette idéologie dominante, c'est qu'elle est devenue omniprésente. Ça n'est plus simplement la publicité. La plupart des médias sont contaminés. L'événement est un produit. Il est vécu comme un produit. Bien sûr.
Et c'est même un système, c'est ça? Vous évoquez le thème de système de domination,
oui,
qui est organisé entre les médias, les publicitaires et peut-être même les grands penseurs qui nous assènent ce qu'on doit penser, non?
Alors, les penseurs qui essayent de faire penser, ben, ils vont plus tellement à la télévision, bien entendu. Ils vont, je sais pas, sur RFPP, par exemple. Vous voyez ce que c'est?
Mais tout ce que tu dis là, ça fait penser de très très près au système des totalitarismes.
Mais oui, c'est sûr. Un jour, j'ai dit la pub, nouveau visage du totalitarisme. Tout le monde m'est tombé dessus. J'avais dit, attention, ce que j'appelle totalitarisme, c'est le fait de proposer aux gens la totalité des solutions qui sont données naturellement par la marchandise et qui vont s'imposer dans leur vie. J'ai pris le mot total. La publicité veut résoudre la totalité de vos problèmes. Et quand il y a des problèmes qu'elle ne peut pas résoudre, ils sont évincés. J'ai employé, alors qu'est-ce qu'on m'a pas dit? On m'a dit, vous croyez que la publicité c'est le nazisme? Vous croyez que c'est, etc. Je n'ai fait qu'appliquer ce qui est dit dans 1984. Dans 1984, ça n'est qu'en partie une satire du communisme totalitaire. Il y a aussi une satire du totalitarisme occidental, si vous voulez. Bon. Et ça, la publicité en a été le nerf au départ, naturellement au service des annonceurs et naturellement au service des entreprises qui annoncent. Mais cette logique, si vous voulez, a essaimé dans tous les médias. Et c'est pour ça, effectivement, qu'actuellement, on est très embêté. Parce que quand on essaie de lutter contre la publicité, on est obligé pour se lutter de se faire entendre, pour se faire entendre des citoyens. On est obligé plus ou moins de passer par les médias sans se faire récupérer par eux. Et c'est un gros problème qui s'est posé, notamment en 2004, quand il y a eu cette espèce de réaction spontanée de plein de jeunes qui sont allés barbouiller, si vous voulez, les affiches du métro, et qui savaient pas trop d'ailleurs, parce que moi je les ai rencontrés à cette époque-là, ils savaient pas pourquoi ils faisaient ça. Ils étaient dans un état, si vous voulez, de résistance, réflexe, parce qu'ils avaient bien vu que quelque part, ils étaient occupés, envahis par quelque chose d'étranger, c'est-à-dire une aliénation, mais ils savaient pas exactement quel mot mettre sur ce qu'ils faisaient et pourquoi ils le faisaient. Et alors, bien entendu, ils ont été tout de suite d'ailleurs récupérés par des gens qui ont dit, ah, c'est pas comme les vieux anti-publicitaires, des gens qui sont puritains, qui voulaient nous faire réfléchir et tout. Non, eux, c'est très bien, c'est underground. C'est la réaction underground. Oui, bon, ils sont tout à fait dans le style rythme. Bon, donc ils sont récupérables. C'est ça que ça voulait dire. Bon.
Et donc, pour montrer cet impérialisme publicitaire qui rentre dans les esprits, vous citez, j'ai les chiffres sous les yeux, l'arrivée progressive de la publicité à la télévision.
Oui.
En 1968, il y a quelques minutes chaque soir et les gens s'en inquiètent. En 1972, il y a encore un plafond aux revenus publicitaires à l'ORTF, donc la télé publique, qui était à 20%, 25%. Et progressivement, avec entre autres la privatisation bien sûr, les pubs sont arrivées entre chaque émission pour atteindre en 1995 un spot de 30 secondes au milieu du film. Et maintenant, les gens sont pratiquement
C'était 500 000 francs.
Les gens sont parfaitement habitués à ça, et alors c'est complètement choquant. Et si on remonte 20 ou 30 ans en arrière, on ne comprendrait même pas ce phénomène.
Et non, parce que ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à cette époque-là, quand on critiquait la publicité, les gens vous disaient, mais en France, ça sera jamais comme en Amérique, il y a un esprit gaulois, un esprit de résistance, etc. Eh bien non, parce que après 95, il y a eu le gros problème, c'est le passage, la conversion, si j'ose dire, du mitterrandisme, je ne dirais pas des socialistes, mais du mitterrandisme à la publicité. C'est sous Mitterrand quand même que la publicité est arrivée sur FR3. C'est Mitterrand qui a accepté la chaîne privée et c'était la chaîne Berlusconi, mais naturellement Chirac ensuite l'a reprise. Alors que plein de gens lui disaient, mais si on laisse dépendre la télévision de la publicité, on va avoir un matraquage comme aux USA, etc. Et bien, Mitterrand, naturellement, a continué. Et à partir de ce moment-là, effectivement, le verre était tellement dans le fruit qu'on ne pouvait plus faire autre chose que de faire sécession. Et toute la période 1980-1990 était une période où on racontait que les gens étaient publiphiles. Ce qui était faux, parce que quand on les écoutait de près, ils n'étaient pas publiphiles, mais ils croyaient que tout le monde était devenu publiphile. Et moi, je m'amuse, parce que quand j'ai sorti mon livre en 81-85, effectivement, je me disais, mais qui va lire ça? Et puis des gens venaient me voir en me disant, oh là là, on croyait que tout le monde était... Mais j'étais content de voir qu'il y avait une voix qui s'élevait contre ça. C'était d'une voix un petit peu seule, mais... Il s'est trouvé que dès 92-93, j'ai rejoint et j'ai été rejoint par des gens effectivement qui commençaient à se dire il va falloir faire une résistance massive, et c'est comme ça que s'est constitué d'abord Paysage de France, qui luttait contre le terrorisme ou l'omniprésence publicitaire dans les affiches, qui ne respectait pas la liberté, et puis Résistance à l'agression publicitaire, qui s'est créée à ce moment-là, avec Yvan Gradis, avec René Macaire, qui était une sorte de progressiste chrétien, qui était centré, si vous voulez, sur la liberté de la personne, et qui voyait bien que toute la thématique publicitaire consistait à déconscientiser les gens, pour les faire obéir, marcher ou pas, vous voyez. Et donc on a lancé Résistance à l'agression publicitaire, avec les actions qu'on peut avoir, et c'est extrêmement difficile, parce qu'on voit bien, quand on voit le système publicitaire, que toute la partie oppression extérieure est facile à combattre, mais c'est qu'on est envahi à l'intérieur de nous-mêmes, au niveau du réflexe.
Et c'est ce que vous résumez en disant que finalement, la lutte anti-publicitaire est un combat idéologique.
Oui.
On a l'impression, quand on voit les gens déboulonner, qu'ils font ça pour se libérer peut-être un beau paysage de quelques panneaux, mais non, finalement, c'est un véhicule idéologique qu'on essaie de supprimer.
Oui, il faut bien, une idéologie, c'est un système d'idées, disons, un mode d'emploi de la vie. Bon, tout le monde en a. Mais il se trouve que lorsque l'idéologie devient dominante, elle veut se répandre et naturellement mettre tout le monde au pas. Vous voyez, donc la résistance à la publicité est une résistance, si vous voulez, d'abord physique, matérielle, devant les affiches, devant la télévision, devant les sports, etc. Mais ça doit être aussi une résistance sur ce qui est au cœur de ce système publicitaire, qui est une idéologie qui marchandise à mort le monde pour le bénéfice de ceux qui profitent des marchandises. Enfin, c'est quand même très clair, si vous voulez. Mais ça a pris une dimension, comme les multinationales, une dimension extrêmement... Bon, si on parlait des dégâts dans le tiers-monde de la publicité, on pourrait en parler aussi, oui. Bon.
On est sur une pente savonneuse où la publicité nous amène à un petit bonheur mesquin, ridicule et inaccessible. C'est exactement ce que nous dit Alain Souchon dans sa chanson « Putain, ça penche ».
Nike, Gap, Diesel, Chanel, Cacharel, Van Cleef et Arpel, Hermès, Converse, Yamamoto.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Monde d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir les journalistes du PIAF et les militants d'Attaque.
Et l'association Résistance à l'agression publicitaire, RAP. Nous venons d'écouter François Brune nous parler de cette idéologie dominante qui nous envahit par la publicité, grâce à la publicité. Et si vous voulez résister à cette agression, eh bien nous allons écouter Khaled Gaïdji.
C'est l'heure de la page de publicité.
Mais non, c'était de l'humour. Voyons, on ne veut pas de publicité. Et nous rappelons d'ailleurs que sur Fréquence Paris Pluriel, la radio que vous écoutez en ce moment, il n'y a pas de publicité.
Sauf pour...
Non, il n'y a jamais de publicité. Nous faisons parfois de la réclame, de l'information, mais jamais de publicité. Alors d'ailleurs, Khaled, parle-nous de cette résistance à l'agression publicitaire.
Alors, résistance à l'agression publicitaire, donc c'est une association... Donc de loi 1901. Donc on a un peu de mal en fait à s'y retrouver dans le monde de l'anti-pub, on pourrait dire. Il y a très peu en fait d'associations qui luttent contre la publicité. Mais Résistance à l'agression publicitaire, en fait, c'est la seule association, on peut dire, d'activistes au niveau national qui fait du plaidoyer aussi assez permanent. Donc sur les effets néfastes de la publicité, c'est son objet en fait, c'est de lutter contre les effets néfastes donc des pratiques des publicités de la publicité sur la société et l'environnement. Donc elle a été créée en 1992, comme ça a été expliqué tout à l'heure. Les premières actions étaient dans le cinéma à l'époque. C'était les premières actions en fait de lutte en fait contre l'invasion publicitaire. Après donc il y a eu d'autres, ça s'est beaucoup étendu en fait au niveau de l'espace public, l'affichage à ce niveau-là. Et en fait, faut comprendre d'abord en fait nos premières revendications. Et la première revendication en fait, quasiment je pourrais dire tous les anti-pubs en fait, en tout cas de France, c'est la liberté de réception. En fait, la liberté de réception, c'est quoi? C'est le corollaire de la liberté d'expression. Donc il y a un droit fondamental, sauf que depuis 1789, la communication quand même ça a pas mal évolué et aujourd'hui en fait on a tendance à oublier le récepteur le libre choix en fait du récepteur à recevoir ou ne pas recevoir un message. Donc nous on revendique que ça soit explicite dans la Constitution, que la liberté de réception soit reconnue dans les lois. Et qu'on respecte en fait la liberté de réception de chacun. Et on pense qu'en fait juste en ayant en gros tous les espaces publicitaires, en gros si on les réduit d'une façon qui permet donc justement d'avoir cette liberté là, on évite en fait pas mal d'effets nuisibles de la publicité qu'on a aujourd'hui. Donc aussi bien en fait dans le message de fond, c'est-à-dire qu'en gros, enfin l'un des gros problèmes c'est qu'on est complètement envahi par la publicité. On reçoit entre 500 et 3000 messages publicitaires par jour. Il n'y a pas vraiment de source en fait pour ça, parce que c'est pour ça que la fourchette est aussi grande. Mais c'est quand même assez immense, c'est une invasion. Le minimum qu'on revendique, c'est justement dans l'espace public, par exemple, qui est notre espace à tous, parce qu'on peut choisir parfois d'éteindre, ne pas éteindre la télé. on peut choisir de ne pas avoir de télévision aussi. Mais quand on est dans la rue, on va faire quoi? On va regarder ses chaussures. On ne va plus pouvoir vivre. Donc nous, ce qu'on revendique, c'est au minimum dans l'espace public, d'avoir justement sur les affichages, c'est pour ça qu'on lutte pas mal là-dessus dans tous les mouvements anti-pub, de réduire en fait la taille de l'affichage publicitaire à 50 x 70 centimètres. Donc c'est la taille de l'affichage associatif légal à Paris. Donc l'idée, ça serait vraiment de le réduire à un format comme celui-là, sans l'éclairer, sans utiliser de l'énergie, avec des dispositifs assez limités. Donc c'est une solution un peu technique qui permettrait d'avoir un peu de publicité, parce que voilà, il y a des petits commerçants peut-être qu'il faut qu'ils en fassent aussi. Mais c'est le maximum en fait pour nous qui est acceptable.
Et donc, ce qui est acceptable, c'est dans un cadre et un contexte politique, un cadre de loi, quoi. Et vous mettez dans ce cadre-là.
Exactement. En fait, nous, en fait, donc c'est là, on revendique une loi, surtout en fait, qui limite la publicité. Après, ça peut être des règlements au niveau de la municipalité, mais la loi, c'est ce qui est commun à tous. C'est notre bien commun. Donc nous, nos revendications sont au niveau de la loi pour l'affichage. Après, nous, en fait, on lutte quand même sur d'autres terrains. On lutte aussi au niveau de l'école, justement, où on demande qu'il n'y ait pas de publicité à l'école. Donc parfois, il y a des intrusions en fait publicitaires à l'école, notamment en fait depuis les années 2000, où en fait il y a eu Jacques Lang qui a sorti une circulaire à l'époque qui permet en fait à la publicité déguisé, on va dire, d'arriver à l'école, de conditionner justement donc les enfants à des comportements de consommation, on pourrait dire, de mode de vie du moins qui amène à consommer tel produit, en faisant en sorte en fait que les entreprises donc puissent rentrer à l'école et donc faire de ce qu'on appelle des manuels pédagogiques et des séances en fait donc dans les écoles. Ce qui pour nous va en l'encontre de la neutralité du service public et ça peut être très dangereux. Imaginez la Seconde Guerre mondiale expliquée par un marchand d'armes, quoi. Ça peut être vraiment l'indépendance et la neutralité.
GDF.
Ou oh oui, on pourrait dire ça pour l'écologie notamment aussi. Dans les services publics, on demande à ce qu'il n'y ait pas de publicité du tout. Donc on voit pas sinon à quoi ça sert de payer des impôts. Qu'il n'y ait pas de dépendance financière aussi par rapport à la publicité, parce qu'en fait il y a beaucoup d'affichages qui dépendent de la publicité dans les services publics. Pour le net, donc pour Internet, on demande à ce qu'il y ait en fait un blocage de toutes les publicités sur Internet et aussi donc des données personnelles qui sont dirigées donc vers l'industrie publicitaire, parce que pour nous ça pose un gros problème démocratique, qui est une application des lois pour condamner enfin les pourriels, donc c'est les spams sinon qu'on peut appeler aussi à ce niveau-là, dans les boîtes aux lettres aussi. Donc on revendique le fait qu'on respecte les autocollants stop pub. Donc après là on est en train de discuter de changer la revendication, de plutôt dire il faut mettre de la publicité chez les personnes qui disent moi je veux de la pub, et quand il n'y en a pas, c'est vrai qu'on n'en veut pas du tout. Donc voilà, en fait, et dans les médias, bien sûr, on demande en fait une limitation, on ne demande pas l'interdiction de la publicité totalement dans les médias, mais on demande une limitation en fait à 50% de financement des médias, et aussi une limitation donc des plages publicitaires dans les médias, même si on sait qu'il y a des médias qui marchent sans publicité aussi, on les soutient à ce niveau-là.
Mais alors, ça pose quand même des questions. On est arrivé à un stade où la publicité finance tellement de choses et est tellement imbriquée dans le politique qu'on voit mal. Quand on voit, par exemple, Jean-Claude Decaux à Paris qui finance une partie du mobilier urbain depuis 35 ans, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, justement, c'est une de nos campagnes actuelles, parce qu'on a quand même des actions. C'est qu'actuellement, il y a des municipales. Donc, on est en train de monter une campagne qui s'appelle Opération Ville Propre. Donc pour nettoyer des déjections publicitaires qu'on a un peu partout dans la ville, où on va poser en fait des questions aux candidats qui se présentent dans les municipales pour leur demander en fait un engagement pour limiter donc l'affichage publicitaire, mais pas seulement en fait ça. Et c'est vrai qu'actuellement, au niveau de la loi, en tout cas au niveau national, on constate que les pouvoirs donc de pression de l'industrie publicitaire sont très puissants. Notamment en fait la loi Grenelle par exemple qui est passée récemment où il y a eu pas mal de discussions en fait au niveau de l'affichage, J.C. Decaux en fait a fait un lobby vraiment très efficace sur donc l'État, notamment donc il y a des formes de copinage au niveau politique qui existent, qui lui a permis en fait de faire en sorte que les mobiliers urbains soient quasi intouchables par exemple par rapport à l'extinction des publicités la nuit. C'est-à-dire que, en fait, en gros, il y a eu quand même pas mal de choses qui sont faites à ce niveau-là. Et, par exemple, la loi Grenelle a permis aussi l'autorisation des écrans publicitaires, donc qui sont en train de fleurir ou pousser comme des champignons, on pourrait dire plutôt, un peu partout dans l'espace public. Et actuellement, on a aussi une campagne de mobilisation justement contre les écrans publicitaires pour demander, parce que c'est vraiment quelque chose d'horrible, hein, les écrans publicitaires par rapport à une affiche, parce que dès qu'il y a quelque chose qui bouge, l'œil humain, il est automatiquement en fait attiré par ça. C'est un réflexe d'autodéfense qu'on a dès quelque chose qui bouge ou qu'il y a de la lumière, on va, comme des moustiques en fait, on va la regarder. Donc pour nous, c'est une agression, une intrusion qui est immense. Et c'est dangereux, oui, en plus. Surtout par exemple sur la route ou des choses comme ça, ça peut être vraiment très dangereux. Donc nous en fait on demande l'interdiction pure de ces écrans-là dans l'espace public parce qu'on considère que c'est très dangereux.
Et donc l'association RAP, si on veut venir vous rejoindre, vous aider, vous avez des campagnes en cours
Alors actuellement en fait dans l'actualité, on a deux campagnes, enfin c'est pas vraiment des campagnes en fait, c'est plutôt on demande aux personnes de nous aider parce que justement quand on allait voir les politiques à l'époque donc du gouvernement UMP, c'était c'est génial ce que vous dites, on est d'accord avec vous et on a vu les textes du Grenelle qui sont sortis qui sont une grosse fumisterie. Donc c'était un peu des super menteurs. Au niveau du Parti Socialiste actuellement, eux, ce qu'ils nous disent, si on n'impose pas de rapport de force, ben, ils ne nous écouteront pas vraiment. C'est pour ça qu'actuellement, nos nouveaux moyens en fait, qu'on développe, c'est qu'on est en train de former des groupes locaux partout en France, justement donc pour que la mobilisation se fasse localement et qu'on construise le rapport de force et aussi donc on mène une campagne d'adhésion en ce moment pour demander aux personnes donc d'adhérer même avec des sommes modiques pour faire du chiffre parce que quand on va avoir un gouvernement si on est plus nombreux bah c'est sûr que ça pèse et aussi pour avoir un agrément qui nous permettrait de porter plainte contre des publicités illégales parce que justement enfin on a au niveau de nos statuts par rapport au code de l'environnement justement des choses qu'on peut faire à ce niveau-là. Donc le plus on aura d'adhérents, le plus on aura de chance d'avoir de notoriété et le plus on aura de chance d'avoir un agrément. Donc vous pouvez aller sur notre site internet antipub.org. Voilà, c'est pas très dur à retenir. Et pour ceux qui veulent soutenir, bah, vous pouvez prendre contact avec nous pour former un groupe local ou pour adhérer tout simplement.
Alors, on vient de parler des choses très très légalistes de l'anti-pub. On ne parlera pas parce que l'association Résistance à l'agression publicitaire est légaliste. Elle se base sur la base de la loi. Mais on parlera peut-être une autre fois des boulonneurs, des reposeurs, de ceux qui vont un petit peu...
Qui font quelque chose
de tout à fait répréhensible. Voyons, oh là là, il faut surtout pas le faire. On déconseille d'y aller. Vous imaginez des gens qui vont salir ces belles affiches. C'est vraiment n'importe quoi. Non, ça... On n'en parlera pas.
Par contre, il y a des moyens pacifiques. Il y a par exemple le TV Big Gun qui avait été lancé à une époque qui permet d'éteindre les écrans et les télés à distance. C'est tout à fait pacifique, ça ne casse rien. Par contre, ça embête beaucoup les gens qui ont des télés allumées partout qui servent à rien et qui balancent de la pub.
Enfin, l'action des reposeurs, par exemple, qui a lieu demain, ne casse rien. Hein. C'est juste, on risque une amende au grand maximum, il n'y a pas de risque pénal.
On n'ira pas. Mais on n'en a pas parlé de ça. On a juste évoqué que parfois, il y a ce genre de phénomène. Alors, on va parler dans une dernière chronique de quelqu'un qui a souvent été une désobéissante. En tout cas, on va parler de Simone de Beauvoir, Alex.
Eh oui, alors le saint du jour n'était pas une sainte. Voilà. Et donc, il s'agit effectivement de Simone de Beauvoir, née le 9 janvier 1908, il y a 106 ans et un jour. Alors, je ne me serais pas souvenu si mon moteur de recherche préféré, je ne veux pas faire de pub, n'avait pas eu la bonne idée de faire un doodle. Visiblement, les journalistes du site internet du Figaro utilisent les mêmes sources que le PIAF, vu qu'ils ont rédigé 3 articles sur elle en 24 heures, entre le 9 et le 10, c'est assez impressionnant. 3 articles pour préciser 3 choses absolument essentielles la concernant. Elle a écrit Le Deuxième Sexe, qui est la Bible du féminisme. On l'associe généralement à Sartre. Et très peu d'actrices, à part Sandrine Kiberlain, l'ont incarnée à l'écran. Bref, 3 articles dans le coup, mais qui n'apprennent pas grand-chose. On peut juste souligner qu'un journal conservateur comme Le Figaro peut considérer aujourd'hui quelqu'un comme Simone de Beauvoir comme une grande femme. On est assez loin du temps où François Mauriac, qui écrivait régulièrement dans ce journal, se fendait d'une petite missive au temps moderne, la revue de Sartre et de Beauvoir, pour dire tout le bien qu'il pensait du deuxième sexe. Citation. « À présent, je sais tout sur le vagin de votre patronne. » Alors il fallait bien tout le talent littéraire d'un académicien goncourisé et nobélisé pour sortir ça. Cependant, cette élégante remarque de Mauriac montre assez bien le choc ressenti par beaucoup de bien-pensants au moment de la sortie du livre. Car Simone de Beauvoir aborde la question féminine de manière crue compte tenu des critères de décence de 1949.
C'est son côté tartare.
Dès l'introduction, elle envoie valdinguer tous les mythes autour de l'éternel féminin. Les femmes ne sont pas naturellement douces, soumises, compréhensives. On leur apprend à le devenir. Il n'y a pas d'instinct maternel ou féminin, mais une lente et complexe éducation à devenir femme, c'est-à-dire à accepter une position subordonnée et complémentaire de celle de l'homme, et les tâches qui vont avec, le ménage, la cuisine, l'éducation des enfants, et la disponibilité sentimentale et sexuelle, ça c'est pour le côté cru. Mais d'où vient cette rage à détruire des représentations essentielles à l'ordre social, moral, public et familial de la France en 1949? On peut y voir évidemment c'est ce qu'on y voit généralement d'ailleurs, une application des thèses existentialistes avec cette formule géniale « on ne naît pas femme, on le devient », ce qui revient à dire en fond « aucun individu, qu'il soit juif, noir ou femme, n'est enfermé dans un destin dicté par la biologie ».
Ou c'est une pub pour les chirurgiens belges.
Une pub pour les chirurgiens belges. Je vais même pas essayer de réfléchir pour comprendre de quoi tu parles. Mais il y a, au-delà de l'existentialisme de Simone de Beauvoir, il y a un rôle qui a été joué très important par Sartre. Et un jour que Sartre lui demandait ce que représentait pour elle le fait d'être une femme, Simone de Beauvoir lui a répondu très spontanément à rien, en ajoutant qu'elle n'avait jamais eu à souffrir du fait d'être une femme. Et là, il y a une espèce de paradoxe. C'est-à-dire qu'à juste titre, Simone de Beauvoir s'est toujours considérée comme privilégiée. Elle a pu faire les études qu'elle a voulu. Elle a été élevée par un père qui la considérait comme un homme, quasiment, qui l'a élevée en tout cas en tant que tel, parce qu'il voulait un fils polytechnicien. Du coup, il a eu une fille agrégée de philosophie. Et son entourage trouvait parfaitement normal, et ça toute sa vie, qu'elle veuille absolument faire ce qu'elle voulait et qu'elle soit indépendante. Alors, à titre de comparaison, c'est une petite anecdote, l'une de mes grands-mères, née 10 ans après Simone de Beauvoir, n'a obtenu le droit de suivre des cours de sténodactylo que parce qu'il se déroulait dans l'appartement qui faisait face à l'appartement de ses parents. Voilà. Alors, c'est une petite anecdote comme ça qui montre assez bien le genre d'enfermement qu'il pouvait y avoir dans certains milieux pour les femmes à cette époque-là. Pas du tout de ça chez les Beauvoir, et c'est parce qu'on lui avait donné les moyens dès son enfance de ne pas considérer sa féminité comme un obstacle à ses passions, qu'elle s'est presque naturellement considérée comme au-delà des frontières du genre, et c'est Sartre, toujours à la recherche d'un combat à mener, qui l'a ramené à la question féminine, l'a poussé à écrire le deuxième sexe, qu'il se pensait incapable de faire, et c'est tout ça qui nous a valu Le deuxième sexe, qui, je pense tout à fait sincèrement, est l'un des plus remarquables bouquins militants, d'une certaine manière, de son époque.
Merci. C'était l'actualité d'un personnage à ne pas oublier.
Ouais, alors, enfin, c'est pas les gonzesses qui vont faire la loi, quand même.
Et juste, vous avez cité un moteur de recherche de l'industrie publicitaire au début, sur lequel vous avez trouvé ces informations-là. On a fait un site internet qui s'appelle surfécouvert.net où on donne toutes les alternatives à ce type de moteur de recherche et comment bloquer les publicités sur internet aussi à ce niveau-là.
Donc on ne va pas avoir vraiment le temps de faire l'agenda militant cette semaine. On va juste rappeler une date importante que vous n'aurez certainement pas dans tous les médias, qui est le 17 janvier prochain, face au MEDEF, les associations de chômeurs et les syndicats vous appellent à des prises de parole à 14h devant le MEDEF 55, avenue Bosquet, métro, école militaire. Et il est 30, nous allons rendre l'antenne. Nous étions sur Fréquence Paris Pluriel, c'était l'émission Mode d'emploi, et nous remercions Claude à la technique, Alex, Jean-Marc aux chroniques, et nos invités avec la résistance à l'agression publicitaire avec Khaled Gaïdji et François Brune. Et nous terminons en écoutant Nos Refils de Paul Chambeur et Tony Flanagan et Tad Jones.